Chapitre 10. La surveillance à laquelle Robert était soumis n'était pas sévère, et il lui fut facile de s'embarquer avec John pour l'Afrique. Une fois arrivés à Alger, ils se firent passer pour des matelots anglais établis à Malte et qui venaient sur la côte pêcher le corail. Le centre de cette industrie est fixé depuis 2 siècles dans le petit port de la Cale, sur la frontière de la région de Tunis. Ils allèrent s'y installer, ils firent l'acquisition d'un bateau qu'ils pouvaient manœuvrer seuls. En écrivant à John en Angleterre, Robert avait eu soin de lui dire d'apporter avec lui 2 costumes complets de plongeur et un appareil à arrière. La profession de corailleur qu'ils avaient choisie expliquait suffisamment la possession de ces objets. Ils avaient fait d'ailleurs en sorte d'éviter tout ce qui pouvait attirer l'attention sur eux, et ils vivaient tout à fait de la vie des pêcheurs. Bientôt, il n'y eut personne sur la côte qui ne les prît pour de pauvres gens venus d'Angleterre pour gagner péniblement leur vie. On se moquait même un peu de leur bateau, achetés pour fort peu d'argent, et de leur prétention de naviguer sans engager un matelot, sans prendre même un mousse avec eux. Avant de tenter l'aventure des sorelles, Robert jugea nécessaire de sortir plusieurs fois pour pêcher réellement, afin aussi de se remettre au métier de plongeur qu'il avait eu tout le temps d'oublier. Ce n'était pas d'ailleurs chose facile que d'exécuter à 2 un travail sous-marin aussi important, et quelques essais préalables étaient indispensables. Les expériences eurent lieu sur les bancs de corail à différentes profondeurs, et elles réussirent parfaitement. Robert retrouva promptement l'aplomb et l'adresse qu'il avait acquis autrefois, et à force de peine et de persévérance, ils parvinrent à s'organiser suffisamment. Pendant que l'un d'eux plongeait, l'autre devait manœuvrer seul l'appareil à air, travail qui emploie ordinairement 2 hommes. Là était la grande difficulté. Elle fut surmontée grâce à l'énergie et à la vigueur de John, et dès lors le succès fut assuré. Dans l'intervalle de ses sorties, Robert avait eu plusieurs fois l'occasion de causer avec des marins de Tunis et de Tripoli qui faisaient le cabotage le long de la côte, et il avait recueilli des renseignements précieux. Le caïman n'était pas inconnu dans ces parages. Il les avait même fréquentés récemment, car le patron d'un chebec tunisien l'avait rencontré par le travers de l'île Pantelleria. Cet homme, qui était monté à bord pour vendre du poisson, y avait fort bien remarqué, disait-il, 3 ou 4 Européens, et il ne se doutait pas de la joie que ce renseignement apportait au père Georges. L'opinion la plus répandue parmi les pêcheurs était que le caïman faisait la contrebande en Italie et en Espagne, mais personne ne connaissait au juste sa destination. Peu importait d'ailleurs à Robert, il lui suffisait de savoir que le navire n'avait pas quitté la Méditerranée, et il ne mettait pas en doute que Georges fût un des Européens qu'on signalait à bord du brick de Morgan. Le moment d'agir était venu. Robert et John quittèrent la cale par une belle matinée du mois d'août. Le vent était bon, la mer calme et le beau temps paraissait assuré pour plusieurs jours. Le lendemain de leur départ, ils étaient en vue des sorelles, et en jetant l'ancre près de l'écueil où ils avaient passé naguère une nuit si terrible, Robert ne put se défendre d'une vive émotion. Rien n'était changé dans l'aspect menaçant des sinistres rochers. Seulement les vagues ne venaient pas se briser avec fureur sur leur base. Ils se dressaient âpres et sombres au milieu d'une mer bleue comme le ciel et transparente comme le cristal. Robert commença par explorer la partie de l'écueil où l'Avenger s'était brisée, et il reconnut avec joie que le navire était resté à la place où il avait sombré. De sa barque, il distinguait, sous 10 brasses d'eau, les grands bras rouges de la machine qui se dressait au milieu des débris du navire. La journée se passa à préparer les appareils et à choisir le point précis du mouillage. Robert se rappelait parfaitement que les barils pleins d'or avaient été arrimés dans une soute placée sous le grand carré des officiers, à l'exception d'un groupe de 6 tonnelets que le commandant avait reçu au moment même de l'appareillage. Cela, faute de temps, était resté en dépôt dans sa chambre. Arrêtant son plan d'après ses souvenirs, Robert décida d'opérer sur la soute un grand carré qui devait être plus facile à atteindre. Il fut convenu que lui et Sloth se plongeraient à tour de rôle et il voulut se charger de la première exploration. Revêtu de son appareil, il descendit sur l'épave et trouva, à une faible profondeur, le pont, ou plutôt les débris du pont, car le temps et la mer l'avaient aux 3/4 détruit. Le carré des officiers se trouvait à découvert et Robert constata avec joie qu'il rencontrerait bien moins de difficultés qu'il ne le craignait. Un travail assez difficile restait cependant. Il fallait trouver la trappe qui recouvrait la soute et la soulever avec une pince. La première visite fut employée à cette opération. Robert eut le bonheur de rencontrer la trappe et la force d'ouvrir. Les barils étaient à leur place. Empilés les uns sur les autres, ils occupaient un espace étroit, et Robert crut voir que ce qui était au fond de la soute s'était crevé sous le poids et vidé en partie. Peu lui importait du reste, car il y avait là de quoi suffire 10 fois à défrayer ses projets, et il était décidé à se contenter d'extraire une partie du trésor, sauf à venir chercher le reste quand il aurait réussi à sauver Georges. Robert remonta et expliqua la situation de l'épave à John, qui ne douta pas du succès. Leur seule crainte était d'être surpris dans leurs travaux, mais c'était bien peu probable, car les marins évitaient d'affronter les dangers des sorelles, et les plongeurs avaient pris la précaution d'abriter leur barque derrière une pointe de rocher pour ne pas être aperçus. Ils calculaient qu'une semaine leur suffirait pour hisser 4 ou 5 barils, et c'était assez puisque chacun d'eux devait contenir, selon l'usage des transports de fonds par voie de mer, 10 000 guinées, c'est-à-dire 260 000 francs. Avec 1 million, Robert avait largement de quoi acheter, s'il le fallait, un navire pour atteindre Morgan. Le lendemain, ce fut le tour de John. Il plongea et réussit à amarrer un premier baril qui fut hissé et embarqué avant la fin du jour. Le travail, cependant, avait été très dur et il fallait plusieurs fois l'interrompre pour dégager le baril accroché à des débris. Le second et le troisième tonnelet donnèrent encore plus de peine, soit qu'ils fussent moins favorablement placés, soit que les forces des travailleurs commençassent à s'épuiser. Robert hésitait à entreprendre de hisser le quatrième, quand il eut la pensée d'explorer la chambre du capitaine, où il avait vu déposer 6 barils pour voir s'il ne serait pas plus facile de les extraire. Il entreprit lui-même ce nouveau voyage et, après avoir donné ses instructions à John pour qu'il suivît tous ses mouvements avec la barque, il plongea et se dirigea vers l'arrière, marchant lentement et prenant toutes les précautions qu'une longue expérience lui avait enseignées. Le navire était fortement incliné, la proue en l'air, et Robert avait beaucoup de peine à se soutenir sur cette pente glissante. Il arriva bientôt à une solution de continuité et il reconnut que la frégate s'était séparée en deux morceaux. L'arrière, où se trouvait la chambre de commandant, formait une épave isolée et, pour l'atteindre, Robert dut franchir, non sans péril, un espace large de plusieurs brasses. Il y parvint sans accident. La cloison de la chambre du commandant avait disparu et le plancher était couvert de débris. Robert remarqua, avec surprise, des cercles et des douves qui semblaient provenir de barils qu'on aurait brisés. Il se dit que peut-être la mer en avait disloqué quelques-uns et il continua à avancer. La lumière, qu'il éclairait suffisamment dans une eau peu profonde, diminuait à mesure qu'il descendait et bientôt, il eut quelque peine à se diriger. Les objets lui apparaissaient à travers un brouillard opaque et il les reconnaissait par le toucher tout autant que par la vue. Il se baissait souvent et il tâtait le sol pour y chercher les barils, mais il avait déjà fait presque en entier le tour de la cabine sans rencontrer autre chose que des meubles, et il allait remonter à ses investigations quand ses mains saisirent un corps rond et allongé. En ce moment, il était à genoux devant l'objet inconnu qui s'élevait devant lui. Il crut d'abord avoir rencontré une de ces colonnes qui, dans les navires, soutiennent le plancher du pont. Mais, en palpant avec plus de soin, il s'aperçut que la prétendue colonne cédait à la pression de la main. Tout à coup, Robert recula d'horreur. L'objet qu'il avait saisi, c'était la jambe d'un homme. Quelque habitué que fût Robert à cette terrible rencontre, celle-là le frappa de crainte et de dégoût. Il se leva et se trouva face à face avec une forme humaine qui se balançait lentement et offrait un aspect étrange. À travers la demi-obscurité, il voyait briller sur la tête du cadavre une sorte de reflet métallique. Robert eut le courage de s'approcher et de regarder de près l'effrayante apparition. Son front se heurta contre une plaque de verre. Ses bras étreignirent une surface molle et gluante. L'homme, qui se dressait ainsi devant lui dans le domaine de la mort humide, c'était un plongeur armé du casque et de la cuirasse. Sa main tenait encore la corde de vie et il étendait le bras comme pour donner le signal de remonter. À travers la plaque de verre contre laquelle Robert avait collé son visage, il croyait distinguer vaguement les grands trous ronds des yeux d'un squelette. Et ainsi, il avait été devancé, et le trésor avait déjà été visité par un malheureux qui avait trouvé la mort. Probablement, le tuyau à air s'était rompu. Mais comment les camarades du plongeur n'avaient-ils pas enlevé son corps? Un soupçon vint à Robert. Il attira à lui le tuyau qui flottait au-dessus de la tête du cadavre et l'examina. On l'avait tranché à une assez grande hauteur, et la coupure n'était pas le résultat d'un accident, car la section était nette et ne pouvait avoir été faite que par la main d'un homme. Robert se baissa et vit que le mort était lié par le milieu du corps à une colonne. Il n'y avait plus de doute possible. Le malheureux avait péri victime de la vengeance ou de la cupidité de ses compagnons. Robert croyait en avoir fini avec le crime et il le retrouvait au fond de la mer. Au sentiment d'horreur qui s'emparait de lui, succéda bientôt une vague inquiétude. Qui donc pouvait se trouver ainsi à ce funèbre rendez-vous de l'accueil? Qui donc avait deviné le secret du trésor de l'Avenger? Malgré la répugnance qu'il éprouvait, Robert trancha avec son couteau de plongeur les liens qui retenaient le cadavre, l'attacha avec une corde, le traîna jusqu'au grand carré et donna le signal convenu pour remonter. Quand il eut atteint la barque et qu'il se fut débarrassé de son casque, John fut effrayé de sa pâleur et lui demanda s'il lui était arrivé quelque accident. Robert était si troublé qu'il eut à peine la force de raconter ce qu'il avait vu. En écoutant le récit de cette lugubre rencontre, John Sloth devenait de plus en plus sombre. On eût dit qu'une terreur superstitieuse s'emparait du vieux marin. Robert et lui se regardaient, sans oser se confier leurs pensées, mais le même pressentiment funèbre les saisissait tous les deux. L'incertitude était trop cruelle. Robert fit un violent effort sur lui-même et ordonna à John de haler à bord la corde qui attachait la victime inconnue d'un crime atroce. Le vieux Sloth obéit et une sueur froide vint mouiller les tempes de Robert quand il vit émerger le corps qui se dressa tout droit comme une effrayante apparition. Une lumière éblouissante éclairait cette scène étrange, et par une bizarrerie de la mémoire qui garde souvent l'impression des petits détails, après que le temps a émoussé les grandes sensations, Robert s'est souvent rappelé depuis que la glace du casque réfléchissait les rayons du soleil comme un miroir ardent. Il était trop ému pour aider John à hisser le corps dans la barque, et pendant que le vieux marin détachait l'appareil qui cachait le visage du mort, le père de George resta debout, la main sur son cœur qui battait à lui rompre la poitrine. Tout à coup, John Sloth poussa un grand cri. « Oh, éloignez-vous, maître! Ne regardez pas, au nom du ciel !» Et en même temps, il l'écartait en se penchant sur le cadavre. Robert le repoussa et tomba à genoux près de lui. La tête adorée de George, de son fils bien-aimé, était là, devant lui, livide et défigurée. Ses yeux ouverts et fixes semblaient regarder son père et lui reprochaient de n'avoir pas su le défendre. Robert se renversa en arrière et tomba comme s'il avait été frappé d'un coup de massue. Quand il reprit connaissance, John, penché sur lui, lui mouillait le front avec de l'eau de mer. Il le regarda d'un œil égaré, puis tout à coup, le sentiment de l'horrible réalité lui revint. « Où est-il? Où est-il? Je veux le voir !» s'écria-t-il en sanglotant. Son vieil ami le retint dans ses bras et lui montra une forme humaine qui se dessinait sous une toile étendue comme un linceul. Le cœur lui manqua et il retomba sans force au fond de la barque. De grosses larmes roulaient le long des joues basanées du vieux matelot et on voyait au mouvement de ses lèvres qu'il priait. Combien d'heures s'écoulèrent ainsi? Robert ne le sut jamais. Mais quand il sortit de l'anéantissement où la douleur l'avait plongé, le soleil touchait à l'horizon. À la douleur écrasante venait se joindre peu à peu le seul sentiment qui put encore vivre en lui, celui de la vengeance. Ainsi le monstre avait achevé son œuvre. Celui qui depuis 20 ans avait arraché l'un après l'autre au malheureux Robert tous ceux qu'il aimait, celui-là avait tué son enfant. L'assassin de la Bastide, l'assassin de Saint-Ouen était encore l'assassin des Sorel. Et si Robert lui avait échappé, c'est que Dieu avait voulu qu'il restât sur terre un homme pour punir tant de forfaits. Robert comprit à cet instant qu'il était chargé d'une mission sacrée et qu'il n'avait pas le droit de mourir tant que vivrait le lâche meurtrier d'un vieillard, d'un enfant et d'une femme. Il se leva, calme et inflexible, et sur le corps de George étendu à ses pieds, la main de John dans la sienne, il fit le serment de venger ses morts. Chose étrange, à dater de ce moment solennel, Le sang-froid lui revint en même temps que le courage. La passion terrible qui s'était emparée de tout son être l'avait rendu de marbre, et il s'occupa sans faiblir des tristes soins qui restaient à prendre. Il avait retiré assez d'or pour assurer sa vengeance, et il s'éloigna de l'écueil sans donner une pensée à l'énorme trésor qui avait vu échapper aux recherches des assassins de Georges et qu'il dédaigna d'emporter en entier. Robert voulait accoster promptement la terre et débarquer la nuit afin de pouvoir ensevelir secrètement le corps de Georges. John se chargea de tenir la barre et la nuit suivante, il fit aborder la barque dans une petite anse à 2 lieues à l'est de la cale. Il connaissait ce bouillage et il savait que les pêcheurs le fréquentaient rarement. Après s'être assuré que la côte était déserte, Robert et Slough transportèrent le corps à une place qu'ils avaient choisie. C'était un ravin boisé qui souffrait à quelques centaines de pas du rivage. Là, au pied d'un caroubier gigantesque, John creusa une fosse assez profonde pour mettre ses restes chéris à l'abri de la voracité des hyènes et des chacals. Mais le travail fut long. Pendant qu'il s'achevait, Robert était assis près du cadavre de son fils. Il voulut le voir jusqu'au dernier instant. La mer conserve les morts. Les traits de Georges n'étaient pas altérés, il semblait dormir. La lune éclairait cette scène de sa lumière pâle, et un lion rugissait dans le lointain. Le moment suprême arriva. Robert coucha lui-même dans son dernier lit l'enfant qu'il avait tant aimé, puis il aida John à combler la fosse. Quand le travail funèbre fut achevé, le malheureux père planta sur la tombe une croix qu'il avait façonnée avec des branches de myrte, s'agenouilla sur la terre qui recouvrait Georges et pria. Avant le jour, la barque entrait dans le havre de la cale et le douanier matinal qui se promenait sur le quai ne soupçonna pas que ce chétif bateau portait une fortune. Robert était résolu à ne pas perdre un seul jour pour se mettre à la recherche de Morgan et de Diego et il arrêta avec John un plan de campagne. Il allait lutter contre des scélérats possesseurs d'une fortune qui leur assurait presque l'impunité, car ils avaient dû retirer plus de 1 500 000 francs des 6 barils de la cabine. Mais il envisagea froidement les chances du combat, et il ne désespéra pas. Lui aussi, il avait de l'or, et il possédait de plus un grand avantage. On ne se défie pas des morts, et les misérables qu'il avait jetés à la mer ne s'était certainement pas armé contre la vengeance d'un homme qu'il croyait noyé depuis longtemps. Mais qu'était-il devenu et comment retrouver leurs traces? Les informations que Robert avait recueillies étaient bien vagues. Il avait bien des raisons de penser que Morgan et Diego, pressés de jouir de leurs richesses, s'étaient réfugiés dans une grande capitale et probablement à Paris. D'un autre côté, les propos des pêcheurs de la côte donnaient à croire qu'ils s'étaient encore montrés récemment dans les parages de l'Afrique. D'un commun accord, Robert et John décidèrent d'aller aux informations en parcourant le littoral du côté de l'Est. Leur bateau corailleur suffisait très bien pour ces premières recherches et l'or était parfaitement en sûreté au fond de cette misérable barque car nul ne pouvait avoir la pensée de l'y aller chercher. Il était important d'ailleurs de quitter la cale sans donner prise aux soupçons, sans qu'on puisse suivre leurs traces. Partir pour une campagne de pêche et ne pas revenir, c'était le moyen le plus simple, et il était à peu près certain que personne ne s'inquiéterait d'eux. Les habitudes des pêcheurs de corail sont très nomades. On devait penser que les deux Anglais avaient transporté leur industrie à Malte ou en Sicile et les oubliait promptement. Les conversations que Robert avait entendues sur le Caïman lui avaient appris que Morgan engageait ses hommes entre Tunis et Alexandrie. C'était donc de ce côté qu'il avait le plus de chances d'obtenir des renseignements. Mais il fallait observer une extrême prudence pour ne pas être remarqué dans les ports. On avait à craindre de rencontrer soit à Tunis, soit à Tripoli, quelques-uns des forbans de Morgan. Mais Robert était bien changé de visage et de costume. D'ailleurs, il comptait envoyer seul à la découverte John Sloth, qui leur était complètement inconnu. À Tunis, on ne put obtenir aucune indication. Robert y comptait peu, le port de la Goulette étant trop fréquenté pour que Morgan eût l'idée d'y relâcher. À Sonsa, qui est un petit navire à l'est du golfe, le hasard le servit mieux. Au milieu de la crique à peu près déserte qui sert de refuge à de rares barques arabes, un grand navire était mouillé et Robert reconnut sans peine le Caïman. Il était entièrement dégréé et paraissait en fort mauvais état. Sa coque vermoulue s'élevait très haut sur l'eau, ce qui indiquait qu'il était entièrement vide, et aucun matelot ne se montrait à bord. On eût dit un vieux ponton abandonné. Robert avait hâte d'aller au renseignement. Un juif qui tenait un petit café sur le port s'empressa de lui en fournir. Puis le Caïman était entré à Sonsa 3 mois auparavant. Il était alors commandé par 3 Européens qui avaient congédié leurs matelots arabes et étaient partis ensuite pour une destination inconnue sur un chebec égyptien qu'ils avaient acheté. On n'en avait plus entendu parler depuis et le commandant du petit fort qui protège Sonsa avait déjà écrit à Tunis pour signer à son gouvernement l'abandon de cette épave importante. Il s'attendait d'un moment à l'autre à recevoir l'ordre d'en prendre possession au nom du bey. À la description que fit le juif des 3 Européens, Robert reconnut Morgan, Diego et George. Il apprit encore qu'il n'avait emmené sur le chebec qu'un seul matelot européen comme eux. Celui-là ne pouvait être que l'Irlandais Cassan. Quant à l'équipage du Caïman, les forbans qui le composaient s'étaient dispersés après s'être livrés à d'affreux désordres. Tous étaient bien munis d'argent et parlaient ouvertement de la campagne qu'ils venaient de faire, se promettant bien de naviguer encore sous les ordres du capitaine Boussif, l'homme au sabre. C'est ainsi qu'ils appelaient Morgan. Ils comptaient le revoir à Tripoli ou à Derna avant un an. De ces informations, il ne ressentait clairement qu'un fait. C'est que l'expédition des Sorel avait été entreprise sans le concours de l'équipage du Caïman et qu'après le meurtre de Georges, Morgan et Diego étaient restés seuls maîtres de leurs secrets et de leur or. L'Irlandais était un complice dangereux. On avait dû s'en débarrasser. Mais de quel côté fallait-il les poursuivre ? Robert s'efforça de reconstruire par le raisonnement l'histoire probable de leurs actions depuis le crime des Sorel. Il n'était pas croyable qu'ils se fussent rendus directement en France, où le débarquement de leurs millions aurait paru trop suspect s'ils s'y étaient arrivés sur leur mauvais chebec. Ils avaient donc dû gagner d'abord un pays où la surveillance était moins sévère, afin d'y prendre pied et de s'y organiser une existence plausible. Il leur fallait un passé à raconter et un point d'origine à indiquer pour que leur brusque rentrée dans la vie parisienne ne fût pas trop remarquée. Le plus sûr était donc d'explorer les pays voisins comme l'Espagne et surtout l'Italie. Leur fortune, d'ailleurs, devait aider Robert à les découvrir. On se cache malaisément quand on a beaucoup d'or à dépenser. John partagea l'avis de son maître, et ils décidèrent de commencer par la Sicile. Robert voulait éviter Malte où on aurait pu le reconnaître, car, par des causes bien différentes, il était, comme les meurtriers de Georges, obligé de cacher sa personnalité et sa fortune. Il lui fallait un port où il pût débarquer avec son or, sans provoquer de questions indiscrètes, et il savait que les douaniers italiens se montrent toujours faciles pour les étrangers qui donnent largement la bonne main. Il fit donc voile pour la Sicile, mais il visita successivement Catane, Messine et Palerme, sans y recueillir le moindre indice. Il avait eu la précaution, avant de quitter la cale, d'emporter quelques échantillons afin de passer pour un pêcheur de corail, et il ne jugea pas à propos de changer de rôle. Les barils pleins d'or servaient de lest à la barque, et personne ne pouvait s'aviser de les y découvrir. Sans se décourager, après cet insuccès, Robert mit le cap sur Naples, qui pouvait offrir de meilleures chances. En y arrivant, il choisit le mouillage de Castellammare, qui lui parut propre à un débarquement furtif, dans le cas où des renseignements certains le décideraient à prendre terre définitivement. Il connaissait le pays pour l'avoir habité autrefois dans un voyage en Italie avec sa chère Hélène, et il savait, sur la côte entre Castellammare et Sorrente, 20 endroits propices. Robert parlait assez bien l'italien. Il se chargea de parcourir Naples en offrant des coraux dans les cafés et dans les hôtels pendant que John gardait la barque. Grâce à ce prétexte très plausible, il se mit en relation avec les domestiques d'auberge, les valets de place et les guides, tous gens très bien informés sur le compte des étrangers et très disposés à parler pourvu qu'on les régalât. Mais Robert n'apprit par eux rien d'intéressant. La nouvelle qui occupait tout ce monde de valets était la mort tragique d'un Anglais qui avait péri en visitant de trop près le Vésuve, alors en pleine éruption, et cette histoire ne le touchait guère. Une semaine entière se passa en courses inutiles, et Robert commençait à désespérer du succès de ses recherches. Probablement il s'était trompé. Ses inductions péchaient nul doute par leur base. Il n'avait plus à attendre que du hasard seul une indication qui le remit sur la voie. Il faisait tristement ses réflexions le soir du 8e jour, en cheminant à pied sur la route qui sort de Naples au pont de l'Annunziata et qui suit la mer jusqu'à Castellammare en passant par Portici. La nuit approchait et il hâtait le pas. Quand au sortir du petit bourg de Torre del Greco, un mendiant lui demanda l'aumône en mauvais italien. Son accent étranger frappa Robert, qui le considéra avec quelque attention. Cet homme ne mendiait pas dans l'état de demi-nudité qui est le costume habituel des Lazzaroni. Il était au contraire complètement vêtu, mais il portait des habits sordides et déchirés qui rappelaient les haillons des habitants du quartier Saint-Gilles, le plus misérable de Londres. Un mauvais chapeau de toile cirée, rabattu sur les yeux de cet étrange pauvre, cachait à moitié son visage et ne laissait voir que des favoris roux et un menton bourgeonné. Cette figure de gueux et d'ivrogne éveilla un souvenir vague chez Robert, qui à tout hasard lui demanda en anglais de quel pays il était. Le faux Lazzarone leva la tête, poussa une exclamation gutturale et rejeta vivement en arrière le chapeau qui cachait ses traits. Robert reconnut Pendicasson, le matelot irlandais.